Le message de Frère Branham que vous allez entendre s'intitule « Être conduit ». Il a été prêché le 7 décembre 1965. Merci, Frère Williams. Je salue Frère et sa femme et tous les délégués ici à ce repas ce soir. C'est certainement un grand privilège d'être ici. J'attendais ce moment avec impatience depuis même que nous sommes partis. Et je désire remercier cette dame. Je n'arrive pas à me rappeler son nom. Billy vient de me dire qu'ils m'ont donné une boîte de bonbons pour Noël et l'ont apportée à la voiture il y a quelques instants. La sœur, je ne me rappelle pas son nom, est d'ici en Californie. C'est mon premier cadeau de Noël et je vous en remercie. Maintenant, ce soir, il est... Maintenant, à Tucson, il est 9h10, mais je crois qu'il est 8h10 ici. Aussi, je ressens une certaine impression dans l'auditoire. Quand je prêche, je suis souvent assez bavard. Aussi, j'espère... Merci. Les gens sont... Il y a des personnes si bien ici. Merci. Mais je suis presque empêché de prêcher par la fatigue ce soir. J'ai tellement voyagé depuis Shreveport et à travers le pays en venant nuit après nuit et vous ne vous sentez pas bien, vous savez, et vous avez froid et vous êtes enroué. J'ai commencé à Shreveport. J'ai perdu mes cheveux il y a quelques années et j'avais une petite mèche que je mets quand je prêche dans le nord du pays pour m'éviter d'attraper froid. Je suis allé à Shreveport et je l'ai oublié et j'ai vraiment attrapé un rhume. Il y a tant de courants d'air, vous ne savez trop pourquoi. Je les ai perdus accidentellement, et la peau est restée fragile, et juste avec un peu de transpiration, j'ai vraiment attrapé mal à la gorge. Il m'est arrivé d'avoir arrêté beaucoup de réunions, et je suis un petit peu enroué ce soir. Nous voulons vous dire que cela a été merveilleux de traverser ces collines pour venir jusqu'ici et d'avoir ces réunions. Hier soir, nous avons passé un très bon moment avec les frères de l'autre chapitre. Il y avait une grande foule, une assistance remarquable, des gens si respectueux et si bien. Aussi vraiment, je suis très heureux de faire partie des hommes d'affaires du plein évangile. Je sens que j'ai un message de Dieu. Cela paraît un peu étrange à certaines personnes que je ne peux pas m'empêcher d'être plus, je dois être ce que je suis. Et nous, je ne désire pas être différent. C'est seulement que je vis dans une période de changement. Nous sommes, tant que vous construisez le mur droit, c'est facile. Le maçon va jusqu'au bout de la rangée. Mais quand on arrive au coin, c'est le moment où, et nous ne construisons pas un mur, nous construisons une maison, voyez-vous? Alors, ces angles, il faut bien qu'ils arrivent. Ils sont arrivés à l'âge de Martin Luther, de John Wesley, et à l'âge de la Pentecôte. Et c'est encore là maintenant. Alors, c'est dur de passer le moment critique, mais je suis reconnaissante à Dieu. Aussi difficile que cela ait pu être, les gens ont répondu à 100%. Aussi nous sommes très reconnaissants. Merci à chacun de vous. Et maintenant, avant d'ouvrir le livre, parlons à son auteur, si vous voulez, juste un instant, pendant que nous inclinons nos têtes. Dieu bien-aimé, nous sommes reconnaissants ce soir du privilège que nous avons de connaître Jésus-Christ, notre Sauveur, ton Fils, et le pardon gratuit de nos péchés, et de savoir que son sang est suffisant pour couvrir tous nos péchés et toutes nos iniquités, ils sont effacés et jetés dans la mer de l'oubli de Dieu, et son épouse se tiendra pure et sans mélange, aux noces de l'agneau pour épouser le Fils de Dieu. Maintenant, nous te remercions pour cette toute suffisance et la foi de savoir que nous ne mettons pas notre confiance dans nos propres mérites, mais dans ses mérites seuls, à cause de ce qu'il fit pour nous. Nous sommes si reconnaissants. Merci pour le succès qu'ont eu ces frères outre-mer et les pays là-bas où ils ont faim et soif de Dieu. Je te prie, Seigneur, que s'ils retournent là-bas, que ces enfants qu'ils ont amenés au royaume de Dieu soit des arrière-grand-mères et arrière-grand-pères des enfants qu'ils y ont aussi amenés. Accorde-leur, Père. Bénis-nous ensemble ce soir et que le Saint-Esprit nous donne ce dont nous avons besoin. Arrête sur nos lèvres les paroles que nous ne devons pas dire et ouvre nos cœurs pour que nous recevions ce que tu veux nous dire. Accorde-le, Père, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Maintenant, prenons dans la Bible le petit passage sur lequel je voudrais parler un moment ce soir. Vous le trouverez dans Saint Marc, chapitre 10. Et j'avais, il y a quelques années, quand je parlais, je n'avais même pas besoin de prendre de notes. J'étais capable de m'en souvenir. Je n'avais pas besoin de prendre de lunettes pour lire dans la Bible. Mais maintenant, j'ai passé 25 ans, deux fois. Cela m'est un peu difficile de faire comme je faisais. C'est comme une voiture usée, mais qui marche encore. Tuf, tuf, tuf. J'aimerais continuer à rouler comme ça jusqu'à ce que j'aille à la ferraille pour être modelé à nouveau. C'est cela la promesse. Saint Luc, chapitre 10. Et je commence au... Je crois que j'ai dit verset 21, si je peux le trouver quelque part ici. Je me trompe, c'est Saint Marc, excusez-moi. Saint Marc, chapitre 10. Et je veux lire à partir du verset 21. Prenons plutôt le verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point. » Tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, prends ta croix et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Maintenant, ce soir, nous allons parler sur un sujet. Je veux que mon texte soit « Suis-moi » et mon sujet « Être conduit ». Maintenant, c'est étrange, mais j'ai pensé peut-être aujourd'hui dans la prière, et j'étais si long, et tous les soirs, j'ai prêché sur le message que j'ai, que le Seigneur m'a donné pour l'annoncer. J'ai pensé que ce soir, dans ce nouveau chapitre, je l'aborderai d'un point de vue différent. Nous avons souvent parlé sur ce sujet. Nous l'avons appelé le jeune et riche patron. Et beaucoup de prédicateurs, ici mes frères, l'ont sans doute abordé de plusieurs manières différentes. Et je voudrais essayer de l'aborder ce soir d'un point de vue différent de ce que j'ai fait jusqu'ici. Le point de vue de être conduit. Rappelez-vous ceci, que chacun de nous, jeune ou vieux, lorsqu'il fit son premier pas dans la vie, a eu besoin de quelqu'un pour le conduire. C'est bien cela. Et lorsque vous ferez votre dernier pas, quelqu'un vous conduira. Il faut quelqu'un pour conduire. Dieu nous compare à des brebis. Et si vous connaissez quelque chose sur la façon d'élever les brebis et sur leur nature, vous savez qu'une brebis ne peut pas trouver son chemin. Il faut qu'on la conduise, même pour la battre. Nous savons qu'on amène la brebis, elle entre, conduite par une chèvre. La chèvre la guide, et quand elle arrive à la fin de la piste, la chèvre s'échappe et la brebis va tout droit à la mort. Ainsi, nous voyons qu'une brebis ne sait pas trouver son chemin. Je me rappelle que j'en ai fait l'expérience un jour. J'étais garde-chasse en Indiana, et j'étais dans les champs, et j'entendis quelque chose, un cri tout à fait pitoyable. Et c'était un petit agneau, il avait perdu sa mère, et il ne pouvait pas la retrouver, et sa mère ne pouvait pas le retrouver non plus. Je l'ai pris dans mes bras, comme il était tranquille contre moi, j'avançais, tenant le petit animal dans mes mains, et il pleurait. Et je l'entendais comme il se mettait bien au chaud, contre moi. Et il avait l'air de comprendre que j'allais l'aider. Je pensais, « Oh, rocher des âges, fendu pour moi, prends-moi dans les bras du Seigneur Jésus, et que je sois simplement satisfait de savoir que je vais aller à la maison pour être avec mes bien-aimés. Et je pensais, à la fin de mon voyage, porte-moi seulement dans tes bras, Seigneur, comme cela, que je sache que je serai porté de la rivière, où il n'y aura ni chagrin, ni maladie, ni rien de tout cela, et que je serai avec les bien-aimés que j'ai aimés. Si vous étudiez la nature, il y a de grandes choses dans la nature. Tout ce que je regarde est que Dieu a fait. Il est l'auteur de la nature. La nature a une continuité. Toute la nature est toujours la même. Vous remarquez chaque chose. Comme je l'ai dit hier soir, je crois, la nature rend témoignage de Dieu. Même si vous n'avez jamais eu de Bible, vous pouvez observer la nature et savoir que cette Bible est la vérité. J'ai eu le privilège de parcourir le monde. J'ai lu des développements différents et j'ai vu des religions différentes, les mahométans, et j'ai lu le Coran, et j'ai vu les chiites, les djinns, les mahométans, et les bouddhistes, et je ne sais quoi encore. Mais pourtant, chacun a une philosophie, un livre de credo, et un livre de commandements, etc. Mais notre Bible est la vérité, et notre Dieu est le seul vrai, parce que tous sont obligés de nous montrer une tombe quelque part, où leur fondateur repose encore. Mais le christianisme désigne une tombe ouverte et peut vivre dans la présence de celui qui avait été mis. Il est vivant. Ce n'est pas un Dieu qui était, c'est un Dieu qui est. Pas un j'étais ou je serai, mais je suis. Toute la nature a une vie continue. Comme je l'ai dit quand je parlais sur les âges de l'Église, nous avons le livre maintenant qui va sortir. Le « Pourquoi ai-je ?» au sujet de ce que j'ai écrit sur les âges de l'Église, et comment nous voyons l'Église, comment elle est mûrie, et comment elle pousse exactement comme le fait la nature. Et nous parlons l'autre jour du soleil, quand il se lève le matin, c'est un petit bébé, vraiment faible, sans beaucoup de force, et au fur et à mesure que le jour s'écoule, il devient de plus en plus fort. À 8 heures, il entre à l'école comme un jeune garçon ou une petite fille, ensuite vers 11 heures, il sort de l'école, et il est prêt pour le travail. Ensuite, jusqu'à 3 heures environ, il change. Il passe de la force de l'âge à la vieillesse, et il meurt l'après-midi. Est-ce la fin du soleil? Non. Il revient le matin suivant pour témoigner qu'il y a la vie, la mort, l'ensevelissement, la résurrection. Voyez-vous? Nous observons les arbres comme ils bougent. Est-ce qu'ils font? Il y a quelque temps, j'étais dans le Kentucky. J'aime la chasse aux écureuils. Et j'y suis descendu en automne pour chasser les écureuils avec un de mes amis. Et il faisait très sec. Et celui qui a déjà chassé l'écureuil gris sait comme il est difficile de se glisser plus près d'eux quand les feuilles crissent. Eh, oh, Houdini n'est qu'un amateur dans l'art de disparaître auprès de ces animaux-là, comme ils arrivent à s'échapper. Et ensuite, essayez donc de tirer à vue à 50 mètres. Il faut bien chasser pour arriver à atteindre un maximum dans la journée. Donc, Monsieur Wood, un de mes amis, un témoin de Jéhovah converti, était avec moi. Et vous, il dit, je connais une ferme par ici, où il y a un homme qui a beaucoup de holas là-bas. On les appelle holas. Combien savent ce qu'est un holas? Bon, mais de quel coin du Kentucky êtes-vous donc? Eh bien, c'est de là que je suis aussi. C'est comme dans une réunion il n'y a pas longtemps, j'ai raconté ça au père William et aux autres. Ils dirent, maintenant nous allons nous lever et chanter l'hymne national. Et je commençais à dire, for my old Kentucky home, pour ma vieille demeure du Kentucky, si bien que personne n'a chanté avec moi. Mais c'était le seul hymne que je connaissais. Et ainsi nous étions maintenant, très bien monsieur, comptant un papier à Frère Branham, note de l'éditeur. Voudriez-vous prier pour une dame qui saigne du nez ici maintenant? Prions. Dieu bien-aimé, je te demande, Seigneur, tu es le grand guérisseur, et je demande que ta grâce et ta miséricorde touchent cette femme maintenant et arrête ce sang. Comme ces croyants assemblés, ici, cette femme est venue pour se réjouir de la parole du Seigneur et la communion fraternelle. Et je te demande, Seigneur, maintenant, de réprimer l'ennemi et d'arrêter ce sang au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous le croyons. Continuons ma petite histoire, juste pour nous mettre dans l'ambiance. avant de passer aux quelques notes que j'ai écrites là et à quelques passages des Écritures. Alors il dit, eh bien, ce vieil homme, allons le voir. Il y a beaucoup de holas chez lui, mais c'est un incroyant. Il dit, si, il pourrait aussi bien nous chasser en nous injuriant si nous y allions. Je dis, mais nous ne trouvons pas d'écureuil ici. Ça fait 2 semaines qu'on campe ici. Et nous étions sales, avec une barbe qui envahissait la figure et tout cela. Il dit, eh bien, allons-y. Nous parcourûmes donc quelques 1020 environ. J'étais déjà venu une fois dans ce pays, 3 soirs, à un rassemblement méthodiste, où le Seigneur avait fait de grandes choses, et il y avait eu un service de guérison parmi les méthodistes. Puis nous avons à nouveau parcouru des collines, des holas, des sommets, et il faut connaître le Kentucky pour savoir le genre de coin qu'il faut traverser. Et alors, que nous revenions par là, nous sommes arrivés à une maison, et un vieil homme était assis là, 2 vieillards étaient là, avec leur vieux chapeau rabattu sur le visage. Et il me dit, le voici, il n'est pas commode, il déteste le mot même de prédicateur. Et il dit, alors je lui dis, bon, il vaut mieux que je reste dans la voiture, sinon nous n'irons pas chasser du tout. Je dis, allez lui demander si nous pouvons chasser. Alors il sortit, s'avança et leur parla. Eh, vous savez, au Kentucky, c'est toujours entrez, etc., etc. Donc, il s'approcha et dit, « Je me demandais si nous ne pourrions pas chasser un peu chez vous. » Le vieil homme assis là, qui pouvait avoir 75 ans, le tabac lui coulant de la bouche, dit, il cracha et il dit, « Comment vous appelez-vous » Il répondit, « Mon nom est Wood. » Il dit, « Êtes-vous un parent de ce bon vieux Jim qui vivait ?» Il dit, « Oui, je suis son fils, je suis Bank. » Bien, dit-il, le vieux Jim était un brave homme. Il dit, « Certainement, faites comme chez vous. » Il dit, « Êtes-vous seul ?» Il dit, « Non, mon pasteur est dehors. » Il dit, « Quoi ?» Il dit, « Mon pasteur est dehors dans la voiture. Il chasse avec moi. » Il dit, « Wood, vous ne voulez pas dire que vous êtes tombé assez bas pour trimballer un pasteur avec vous partout où vous allez ?» C'était bien un vieil homme au caractère difficile. Aussi, je pensais qu'il valait mieux que je descende de voiture, vous savez. Aussi, je sortis et m'avançais. Et il dit, « Alors, vous êtes prédicateur, hein ?» Je dis, « Oui, monsieur. » Il me regarda des pieds à la tête, du sang d'écureuil et de la crasse, et je dis, « Tu n'en es pas l'air. » Il dit, « J'aime assez ça. » Et il dit, « Vous savez, je voudrais vous dire quelque chose. » Il dit, « Je suis censé être un incrédule. » Je dis, « Oui, monsieur, j'ai compris cela. Je ne pense pourtant pas qu'il y ait tellement à s'en vanter, n'est-ce pas ?» Et il dit, « Bien, je ne sais pas. » Et il dit, « Je vais vous dire ce que je pense des types comme vous. » Je dis, « D'accord. » Il dit, « Vous flairez une fausse piste. » Et combien savent ce que cela veut dire, voyez-vous? Cela veut dire que le chien est un menteur. Il n'y a pas de gibier du tout, voyez-vous? Il dit, « Vous flairez une fausse piste. » Je dis, « C'est votre opinion. » Et il dit, « Bien, regardez, vous voyez cette vieille cheminée là-bas? » « Oui. » « Je suis né là il y a 75 ans. » Et il dit, « J'ai vécu là dans ces collines pendant toutes ces années. » J'ai regardé vers les cieux, j'ai regardé ici et là, et sûrement, pendant ces 75 ans, j'aurais dû voir quelque chose qui ressemble à Dieu. Vous ne croyez pas? Je dis, eh bien, cela dépend de ce que vous regardez, vous voyez, de ce que vous cherchez. Et il dit, eh bien, je ne crois certainement pas qu'il y ait un tel être. Et je crois que vous et les autres, vous arrivez là, et vous soutirez de l'argent aux gens, et tout cela. Et c'est comme cela que ça se passe. Je dis, eh bien, vous êtes citoyen américain. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Il dit, il y a un type dont j'ai entendu parler une fois. Il dit, que je voudrais certainement, si un jour j'ai l'occasion de lui parler, j'aimerais lui poser quelques questions. Je dis, oui monsieur. Il dit, c'était un prédicateur, vous le connaissez peut-être. Il tenait une réunion à Campbellswell il n'y a pas longtemps, près de l'église, un camp. Et il dit, j'ai oublié son nom, il est de l'Indiana. Et je dis, « Ah oui, monsieur ?» Et frère Wood commençait à dire, « Eh bien, je... » « Chut, ne dites pas ça. » Et alors il dit, « Je dis, qu'est-ce qu'il avait ?» Il dit, « Eh bien, cette vieille madame une telle, là-bas sur la colline. » Il dit, « Vous savez, elle mourait d'un cancer. » Et il dit, « Ma femme y allait le matin pour refaire son lit. On ne pouvait même pas la soulever suffisamment pour la mettre sur le bassin. » Il dit, « On mettait juste une allèle. » Et il dit, « Elle était mourante. Elle avait été à Louisville et les docteurs ne pouvaient plus rien pour elle. Elle allait mourir. Et sa sœur alla à cette réunion. Et ce prédicateur était là, sur l'estrade, il regarda l'assistance, il appela cette femme par son nom, et lui dit qu'en partant, elle avait pris un mouchoir et l'avait mis dans sa bourse. Et il appela cette femme par son nom à 20 000 d'ici, et dit combien elle souffrait du cancer, et quel était son nom, et tout ce qu'elle avait enduré. Et il dit, prenez ce mouchoir et posez-le sur cette femme, et il dit que cette femme serait guérie du cancer. Et il dit, ils sont venus ici cette nuit-là. Et il dit, sincèrement, j'ai entendu un cri épouvantable là-bas. J'ai cru qu'ils avaient lâché toute l'armée du salut au sommet de la colline là-haut. J'ai dit, eh bien, je crois bien que cette pauvre femme est morte. J'ai dit, nous, demain, nous irons chercher la voiture pour la prendre et l'amener jusqu'à la grande route. Et je dis, comme ça, on peut aller jusqu'aux pompes funèbres. Et je dis que nous avons attendu, c'était pas la peine d'y aller à cette heure-là de la nuit, et c'est à peu près à 1 000 d'ici sur la colline. Il dit, nous y sommes allés le matin suivant, et savez-vous ce qui est arrivé? Je dis, non, monsieur. Il dit, elle était là, en train de manger des tartes aux pommes et de boire du café avec son mari. Et je dis, vous parlez sérieusement? Il dit, oui, monsieur. Oh, dis-je, voyons, monsieur, vous ne parlez pas sérieusement. Il dit, ce qui m'inquiète est que, comment cet homme qui n'est jamais venu par ici savait cela, voyez-vous? Et je dis, mais vous ne croyez pas cela? Il dit, c'est la vérité. Je dis, vous croyez cela? Vous voyez? Il dit, eh bien, montez là-haut, je peux vous le prouver. C'était lui qui cherchait à me persuader maintenant, voyez-vous? Alors, je pris une pomme et je demandais, puis-je manger une de ces pommes? Et je la frottais contre mon vêtement. Il dit, eh bien, les guêpes les mangent, je pense que vous pouvez en prendre une. Et alors, et ensuite je dis, bon, je mordis dans la pomme et je dis, c'est une bonne pomme. Il dit, oh oui, savez-vous quoi? J'ai planté cet arbre-là il y a à peu près 40 ans. Je dis, oh, c'est vrai? Oui, monsieur. Et je dis, bien. Et je remarque que nous n'avons pas encore eu de gelée, c'est le début d'août. Et je dis, ces feuilles tombent des arbres. Oui, monsieur, c'est cela, on arrive à l'automne. Je crois qu'il sera en avant cette année. Je dis, oui, monsieur, je changeais de sujet, vous voyez. Et il dit, je dis, eh bien, vous savez, c'est drôle. Je dis, comment la sève de cet arbre? Et les feuilles qui tombent, et pourtant il n'y a pas de gelée. Il n'y a pas eu de gelée pour tuer les feuilles. Et il dit, mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec ce que nous disions? Et je dis, eh bien, je me demandais, vous savez, ma mère disait, donnez à une vache assez de cordes, et elle ira s'étrangler, vous savez. Aussi, je lui donnais beaucoup de cordes. Aussi, il me suivit, il dit, bon, oui, mais quel rapport y a-t-il? Je dis, vous savez, Dieu fait pousser les pommes, et vous profitez des pommes, et des feuilles, et vous vous reposez à son ombre, etc. Je dis, la sève descend à l'automne, et remonte à nouveau pour donner les pommes et les feuilles. Et il dit, oh, ça c'est seulement la nature, vous voyez, seulement la nature. Et je dis, bien sûr, c'est la nature, mais quelqu'un doit diriger la nature, voyez. Vous allez m'expliquer ce qui fait cela. Et il dit, bon, c'est juste maintenant, Indiana, et qui s'arrête ici, vous êtes les plus effrontés que je connaisse. Et nous, il prend son envol et s'en va. Il faut que ce soit de la même nature. L'oiseau du ciel, la colombe, et l'animal le plus doux de la terre, l'agneau, ils peuvent s'entendre. Et quand le Saint-Esprit vient sur nous, il fait de nous de nouvelles créatures alors. Il peut nous conduire. Mais si nous essayons de mener la même vie qu'avant, alors cela ne marchera pas. Cela ne pourra pas marcher. Maintenant, le premier pas que vous ayez jamais fait dans la vie à propos de la conduite, cela a dû être dirigé par la main d'une bonne mère. Ses mains sont peut-être immobiles ce soir, dans quelque cimetière là-bas, mais c'est la main qui vous a conduit pour faire votre premier pas. Ensuite, quand votre mère vous a appris à marcher, que vous avez fait quelques pas, que vous êtes tombé, vous vous êtes relevé, et vous avez pensé que vous faisiez des choses extraordinaires. Ensuite, elle vous a confié un instituteur, et puis elle a commencé à vous éduquer ce que vous deviez faire, comment le faire, et ce que vous deviez apprendre. Ensuite, quand l'instituteur en a eu fini avec vous, votre père vous a pris en main. Il vous a peut-être enseigné à travailler, comment réussir dans les affaires, comment faire les choses bien. Votre mère vous a appris à être une bonne maîtresse de maison, à faire la cuisine, etc. Puis, quand ils en ont eu fini avec vous, votre pasteur ou le prêtre s'est occupé de vous. Mais maintenant, qui vous conduit? C'est la question qui se pose maintenant. Maintenant, ce soir, nous sommes tous conduits par quelque chose. C'est comme cela, nous sommes conduits. Remarquez-le. Maintenant, voyons ce jeune homme. Quelles influences avait-il subies? Regardons ce jeune homme d'affaires. C'est comme ça que nous l'appellerons, car il était un homme d'affaires. C'était un homme important et qui réussissait. Voyons qui le conduisait. D'abord peut-être sa mère, lui avait-elle appris ce qu'il fallait qu'il fasse quand il était petit. Son père avait réussi son éducation. Et elle lui avait peut-être laissé un patrimoine parce qu'il était lui-même un dirigeant. Peut-être son père était-il mort et il était donc devenu un homme d'affaires. Aujourd'hui nous l'appellerions un homme d'affaires chrétien ou bien un homme d'affaires pieux. Ce serait là la meilleure définition. Cet homme était religieux. Ce n'était en aucune façon un incrédule. Et sa mère lui avait enseigné comment se comporter, marcher, s'habiller. Son père lui avait montré comment s'occuper de cette affaire importante et comment réussir dans la vie, et ses affaires prospéraient. Son père et sa mère l'avaient élevé dans l'église et l'avaient dirigé vers le prêtre, et le prêtre en avait fait un homme vraiment religieux. En conséquence, il était un homme très cultivé. C'était un homme bien, ayant une bonne nature. Si Jésus-Christ le regarda et l'aima, c'est qu'il y avait en lui quelque chose d'authentique. C'est certain. Car la Bible dit ici, nous le trouvons dans Marc, et Jésus le regardant l'aima. Oui, Jésus le regardant l'aima. Aussi, vous voyez qu'il fallait qu'il y ait eu quelque chose de vraiment exceptionnel dans ce jeune homme. Il avait une bonne nature et un bon niveau moral. C'était un homme qui avait été élevé comme il fallait, intelligent, distingué, intellectuel, qui réussissait dans les affaires, et un homme religieux. Il avait de nombreux traits de caractère si remarquables qu'ils attirèrent l'attention de Jésus-Christ le Sauveur. Mais, quand il fut au pied du mur, réussissant tout le reste, rien n'avait tourné mal. Il avait exactement les dispositions qu'il lui fallait. Il était exactement à la mesure de sa vie. Intelligent, une bonne éducation, il réussissait, il était distingué, un homme d'affaires comme il faut. Il appartenait sans doute à un groupe d'hommes d'affaires quelque part en Palestine. Peut-être appartenait-il à une assemblée d'hommes d'affaires, comme nous en avons une ici ce soir. C'était certainement le cas, car les hommes d'affaires ont toujours des réunions entre eux, l'un avec l'autre. Parce que, exactement comme les oiseaux d'une même couvée, ils ont des choses à se dire. Et si ce... Les hommes religieux n'ont pas envie de discuter avec l'homme qui tient un bar, tous ensemble parce qu'ils n'ont rien de commun. Nous sommes obligés d'avoir des choses en commun. De même, les chrétiens ont quelque chose en commun avec les autres chrétiens. Les pécheurs ont quelque chose de commun avec les autres pécheurs. Et les associations et quoi que ce soit, ils ont des choses en commun. Et ce jeune homme appartenait certainement à une réunion d'hommes d'affaires. Et il était aussi religieux qu'il le pouvait. Parce que lorsque Jésus lui posa des questions, il dit, « J'ai gardé ses commandements et je les ai observés depuis ma jeunesse. » C'est juste. Voyez, on l'avait bien élevé, bien éduqué et tout. Mais quand il se trouva face à face avec la pensée de la vie éternelle, maintenant, remarquez bien, avec toutes ces qualifications qu'il avait, il savait pourtant qu'il n'avait pas la vie éternelle. Maintenant, toutes nos associations, notre église, notre appartenance à un groupement et les choses qui nous tiennent tant à cœur, nos associations américaines et tout, c'est très bien, il n'y a rien à dire contre cela. Et notre association d'hommes d'affaires chrétiens ici est une grande chose. Elle m'a été une porte ouverte pour, au sujet de mes pensées interdénominationnelles, que nous sommes chrétiens. Personne, aucune dénomination ne peut revendiquer de droit sur nous. Les vrais chrétiens, parce que nous appartenons à Dieu. Les dénominations sont faites de main d'homme, et le christianisme descend du ciel. Mais avec toutes ces choses que nous avons, aussi bonnes soient-elles, aussi bon que ce soit de se rassembler, quelque agréable que soient nos réunions, et cette compréhension mutuelle que nous avons, malgré cela, chacun de nous se trouve face à face avec la vie éternelle. Et peu importe quel succès nous avons remporté dans les affaires, quel succès nous remportons et quelle place importante nous tenons dans une église et combien nous travaillons et combien nous nous efforçons de bien faire. Pourtant, si ce n'est pas fait comme Dieu le veut, c'est adorer Dieu en vain. Jésus l'a classé de la même manière. Et je m'arrête sur cette pensée un moment. Il a dit, C'est en vain qu'il m'honore, enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Alors pensez, une adoration sincère à Dieu, droite, dans la sincérité de votre cœur, est pourtant en vain. C'est comme cela que cela a commencé avec Caïn au jardin d'Éden. Il adorait sincèrement, mais il fut rejeté. Très religieux, et pourtant rejeté. À Shreveport, la semaine dernière, la semaine d'avant la dernière, à une réunion des hommes d'affaires chrétiens, à un déjeuner, où il y avait plusieurs centaines de personnes réunies, j'ai parlé pendant 2 heures et demie sur rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Maintenant, cela paraît bizarre, mais nous devons nous conformer à la direction préparée à l'avance par Dieu et sa façon de le faire. Peu importe que nous pensions que c'est ce qu'il faut faire ou non, il faut que ce soit selon la parole du Seigneur, ou alors c'est en vain. Caïn adora, mais ce n'était pas selon la parole de Dieu. Les pharisiens adoraient, mais pas selon la parole du Seigneur. Et c'est ce que j'ai enseigné dans ce message particulier aux hommes d'affaires. David désirait rendre un service au Seigneur, et il avait raison dans ce qu'il disait. Il disait, « Est-ce bien que l'arche du Seigneur soit là-bas? Montons-la jusqu'ici. » Au temps du roi, l'autre roi à qui il succédait, il dit, « Ce n'était pas bien. » Il ne s'approchait jamais de l'arche pour consulter le Seigneur, mais nous devons le faire. Maintenant, c'était correct. C'était ce qu'il aurait dû faire. Il dit, « Nous devrions aller chercher l'arche, et nous pourrons consulter l'Éternel. » Et c'était bien. Elle était dans un autre pays. Il dit, « Il faut la porter ici. Montons-la dans la maison et adorons le Seigneur. » Maintenant, remarquez qu'il ne s'engagea pas dans le chemin qu'il fallait pour le faire. Il consulta les chefs de 50, 200, 2000. Ils furent tous consultés, tout le monde. Il pensait que c'était la volonté du Seigneur. Cela semblait être la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, quelquefois, vous devez la mettre à sa place exacte. Sinon, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Voyez? Maintenant, laissez pénétrer cette idée en vous, et vous aurez une idée d'ensemble de ce que j'essaie d'expliquer. Je ne veux pas voir l'Église suivre les mêmes traces que là-bas en Angleterre. Cheveux longs, hommes fardés et perversions. Nous ne voulons pas de cela. Peu importe que cela ait l'air si religieux, et qu'Elvis Presley chante des cantiques, c'est tout de même un démon. Oh, je ne juge pas, mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits, voyez? Il est pentecôtiste, mais cela ne change à rien. Voyez, vos fruits témoignent de ce que vous êtes. Peu importe que l'Esprit vienne sur lui, qu'il parle en langue, qu'il crie, qu'il guérisse les malades. Jésus a dit, beaucoup viendront à moi en ce jour et diront, Seigneur, n'ai-je pas fait ceci ou cela? Et il dira, retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Voyez, nous devons être de vrais chrétiens authentiques. Et la seule façon de l'être est de pouvoir faire face à cette question de vie éternelle. Il n'y a qu'une forme de vie éternelle, elle vient de Dieu. Et il prédestina chaque être qui devait l'avoir. Exactement, comme si vous étiez un gène dans votre Père, vous étiez un gène en Dieu, un de ses attributs dès le commencement, ou alors vous ne serez jamais en lui. Vous avez poussé dans le terrain fertile de votre mère. Votre père ne vous connaissait pas. Vous étiez dans ses reins. Et quand vous grandissiez dans le terrain fertile de votre mère, alors vous devenez un être vivant. Et vous êtes à l'image de votre père. Et vous pouvez bien vous entendre avec lui. C'est la même chose avec Dieu. Si vous avez la vie éternelle, la vie dans laquelle vous êtes entré, la vie naturelle, physique, c'est par votre père que vous l'avez eue. Et la seule façon pour que vous soyez né de nouveau, c'est la seule façon, c'est par votre Père Céleste que vous devez l'être. Vous êtes ses attributs. Tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Vous voyez? Vous êtes ici parce que votre nom était dans le livre de vie de l'agneau avant même que le monde soit fondé. C'est exactement cela. Vous êtes un gène spirituel sorti de votre Père Céleste. Une partie de la parole de Dieu. C'est ainsi. Comme je l'ai dit, alors, vous étiez avec Jésus quand il était ici, parce qu'il était la parole. Vous avez souffert avec lui. Vous êtes mort avec lui. Vous avez été enseveli avec lui. Vous êtes ressuscité avec lui. Et maintenant, vous êtes dans les lieux célestes avec lui. Remarquez que David pensait que tout allait bien. Et il consulta ses gens. Et ils commencèrent tous à danser, crier, hurler. Ils avaient tous leur idée religieuse que c'était bien cela. Mais pourtant, ce n'était pas la volonté de Dieu d'aller chercher la parole de Dieu et de la ramener à la maison de Dieu. Mais voyez-vous, Dieu agit toujours à travers les siècles de la même manière. Sa première décision est la seule décision, parce qu'il est parfait dans ses décisions. Il ne fait jamais rien sans d'abord le révéler à ses serviteurs les prophètes. C'est exactement cela. C'est pourquoi cette église dans l'âge de laquelle nous vivons, il n'y a aucune église, ni méthodiste, ni baptiste, ni pentecôtiste, ni aucune autre qui puisse la faire entrer dans l'épouse. Il faut que Dieu, en réponse à Malachie 4, envoie un prophète à qui ce sera révélé, parce que c'est la seule manière. Nos églises font des dénominations, elles compliquent tout et emmêlent tout, exactement comme elles l'ont toujours fait, et Dieu envoie toujours un prophète. Et voici, Nathan se tenait là, un prophète approuvé de Dieu, et on ne le consulta même pas. Et ils descendirent et causèrent la mort d'un brave homme, etc. Et prirent l'arche, au lieu de la mettre sur les épaules de Lévite pour la transporter, ils la mirent sur un char pour la transporter. Et ils ont tout gâché. Vous voyez, si vous ne vous conformez pas à la volonté de Dieu et à la manière dont il veut qu'on l'exécute, on la galvaude, la contrefait dans une organisation, une dénomination, un message, et voilà, voyez-vous, cela a toujours été comme cela. Ce garçon a été confronté avec la même chose. Le voici, il était peut-être un pharisien ou un sadducéen, peut-être faisait-il partie d'un ordre important de cette époque-là. Il était religieux possible. Il dit, « J'ai observé ces commandements qu'on m'a enseignés depuis ma jeunesse. » Et Jésus l'aima à cause de cela. Mais il refusa d'être guidé. Il ne voulut pas accepter la véritable direction de Jésus-Christ qui lui donnait la vie éternelle. Remarquez qu'il croyait qu'il existait autre chose que ce qu'il avait. Sinon, il n'aurait jamais dit, « Bon maître, que dois-je faire ?» Voyez, il voulait faire quelque chose de lui-même. Voilà comme nous sommes. Nous voulons faire quelque chose nous-mêmes. Le don de Dieu est un don gratuit. Dieu vous le donne. Vous ne faites absolument rien pour cela. Il l'a préparé pour vous et vous le recevez. Remarquez, il savait qu'il était là. Il y croyait. Il le voulait. Mais quand il réalisa comment il devait faire, c'était différent de ses rites. C'était différent. Il pouvait garder son argent et continuer à appartenir à la même église. Mais Jésus le savait, et savait qu'il avait amassé cet argent, et il dit, « Va, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres, et viens, prends ta croix et suis-moi, et tu auras des trésors dans le ciel. » Mais il ne put pas le faire. Les autres directeurs qu'il avait eus dans sa jeunesse avaient eu une telle influence sur lui qu'il refusa le chemin préparé par Dieu, qui est Jésus-Christ, le seul qui détiennent la vie éternelle, le seul qui puisse vous la donner. L'Église ne peut pas vous la donner, ni votre voisin, ni votre pasteur, ni un prêtre, ni votre credo. Jésus-Christ seul peut vous donner la vie éternelle. Peu importe combien vous êtes bon, ce que vous arrêtez de faire, ce que vous commencez à faire, vous devez accepter la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et alors, quand vous faites cela, comme il est la parole, votre vie s'ajuste alors exactement à la parole. Elle se manifeste en accord avec l'âge où vous vivez. Noé devait agir afin que la parole soit manifestée dans son âge. Maintenant, que serait-il arrivé si Moïse était venu disant, « Nous savons ce que Noé a fait, nous suivrons la parole de Noé, nous ferons exactement comme Noé, nous allons construire une arche, nous descendrons le Nil et nous sortirons d'Égypte. » Eh bien, cela n'aurait pas marché, voyez-vous. C'était un autre âge. Jésus ne pouvait venir avec le message de Moïse. Luther ne pouvait pas venir avec le message catholique. Wesley ne pouvait pas venir avec le message de Luther. La Pentecôte ne pouvait pas venir avec le message pour l'âge de Wesley. Et l'épouse ne peut pas être formé dans la dénomination de Pentecôte. C'est absolument impossible. Et c'est absolument vrai. Elle s'est organisée, s'est éloignée, elle s'est immobilisée exactement comme les autres. C'est la base, exactement comme la vie sort à travers. Voyez, cet écrivain dont j'ai parlé l'autre soir, cet écrivain qui a écrit ce livre, et pas parce qu'il me critiquait tellement, disant que j'étais un démon, si toutefois cela existait, et il dit qu'il ne croyait pas en Dieu. Il dit, un Dieu qui peut se croiser les bras et rester là, à regarder les martyrs dans les premiers âges, tout en assurant qu'il avait le pouvoir d'ouvrir la mer Rouge, et laisser les femmes et les enfants être déchirés par les lions, et ainsi de suite, et dire alors qu'il était un Dieu d'amour. Il dit, ça ne peut pas exister. Voyez, cet homme qui n'était pas inspiré par la parole ne pouvait la saisir. Le premier pied de blé, l'époux, dut tomber en terre pour se relever. De même, la première épouse qui était née à la Pentecôte dut traverser les âges sombres comme n'importe quelle autre graine et être enterrée. Il fallait qu'il meure. C'était obligé. Mais cela a germé à nouveau avec Luther lors de la première réforme. Cela ne ressemblait pas à la semence qui avait été enfouie, mais c'était la lumière de ce temps-là. La tige, ensuite, donna l'épi, Wesley, et de l'épi alla dans la base de Pentecôte. Et quand vous observez le blé, quand il pousse, l'épi de blé, quelqu'un qui cultive le blé, il va voir la forme du blé. Cela ressemble exactement au grain. Mais si vous prenez une pince, et que vous preniez ce blé pour l'ouvrir, il n'y a pas de grain dedans, ce n'est que la balle. Et alors, quoi donc? C'est là tout prêt pour contenir le grain, voyez-vous? Et alors, la première chose que vous voyez, c'est que la vie a quitté la tige pour aller dans les graines, puis a quitté les graines pour aller dans la balle, et quitté la balle pour aller dans le grain. Trois étapes, voyez-vous? Et ensuite, le grain est formé en dehors des trois étapes. Luther, Wesley, la Pentecôte. Exactement, vous voyez, il n'y a pas de doute. On ne peut pas arrêter la nature. Maintenant, regardez, chaque fois que Dieu a envoyé un message, ils se sont organisés dans les trois années qui ont suivi. Et ceci existe depuis 20 ans et il n'y a pas d'organisation. Il n'y en aura pas, voyez-vous? Maintenant, il faut que la balle soit enlevée pour donner au grain une chance de se placer devant le Fils, de mûrir grâce au message, pour retourner directement à l'Église, formant le corps de Jésus-Christ, exactement comme la première épouse qui avait été mise dans le sol. Maintenant, pour voir là, la vie éternelle. La vie, certainement, la tige, avant portait la vie, c'est sûr. Mais voyez-vous, quand elle devint la tige, ce fut fini, ce fut une organisation. La vie la quitta et alla vers Wesley. Elle la quitta aussitôt. Pourquoi? Observez-les bien toutes. C'est qu'une grande tige ne ressemble pas au grain. Mais quand les petits grains de pollen arrivent, comme le sur la balle ou sur la tige, le pollen de l'épi, cela ressemble beaucoup au grain. Mais quand on arrive à la balle, c'est presque cela. Jésus n'a-t-il pas dit, dans les derniers jours, Matthieu 24, 24, les deux seront si proches que même les élus, les prédestinés, seraient séduits si c'était possible. Presque comme le vrai, voyez-vous? Ainsi, dans les derniers jours, maintenant, voyez, c'est le temps du grain. On approche à la moisson. Ce n'est pas l'âge de Luther, ni celui de la Pentecôte. C'est l'âge de l'épouse. De même que Moïse a fait sortir une nation d'une autre nation, aujourd'hui, Christ fait sortir son Église d'une Église. Voyez, la même chose typifiée, les emportant vers la glorieuse terre promise de toute éternité. Maintenant, refusez cette personne qui vous appelle, Christ, qu'importe que vous soyez pentecôtiste, méthodiste, luthérien, quoi que vous soyez, vous devez cet âge, je n'ai rien contre eux, non vraiment pas, mais dans cet âge, maintenant, vous devez accepter la personne de Christ, qui est la parole, comme il le fit dans un autre âge. Au commencement, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole fut faite chair, et elle a habité parmi nous. Le même hier, aujourd'hui est pour toujours. Hébreux 13:8. Voyez, Vous devez accepter la personne de la vie éternelle. Maintenant, la vie qu'avait Luther était la justification. Wesley avait ajouté la sanctification. La Pentecôte fut la restauration des dons qui y fut ajouté. Mais maintenant, tout est achevé dans le corps. Voyez-vous, les trois stades, et sortant de cela, maintenant quand viendra la résurrection, la vie qui vivait dans les luthériens et qui sortirent, la vie qui vivait dans les méthodistes et qui sortirent, la vie qui entra dans la Pentecôte, seront enlevées de la terre, dans le corps de l'épouse, pour être présentées devant Jésus-Christ. Gloire à Dieu! Oh, c'est enivrant, c'est la vérité, nous avons franchi un tournant, nous regardons vers le ciel, attendant la venue, la coiffe de la pyramide, comme nous dirions, son retour. L'Église sera ressuscitée bientôt, et il faut nous préparer. Et la seule façon de le faire n'est pas de dire, eh bien j'appartiens aux assemblées de Dieu, j'appartiens aux unitaires, aux binitaires, ou quoi que ce soit, j'appartiens à l'Église de Dieu, cela ne veut rien dire. Nos pères criaient, dansaient, c'était très bien, c'était leur âge. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas confrontés à une organisation qu'ils ont créée, mais à la vie qui continue, qui est Jésus-Christ. Ce jeune homme avait fait la même chose, Moïse avait écrit ses commandements, mais vous voyez, le même Dieu qui écrivit ses commandements au travers de son prophète, c'était la même chose que la prophétie disant que le jour viendrait où je susciterai un prophète semblable à toi, et il arrivera que quiconque ne l'écoutera pas sera retranché. À nouveau, dans la Baal et l'épi dénominationnel, il faut qu'ils arrivent à la vie. Et aujourd'hui, ne dites pas, je suis pentecôtiste, j'appartiens à ceci, j'appartiens à cela. Cela ne signifie rien. Vous devez accepter la personne de Christ, la vie éternelle. Chacun de nous est devant un choix. N'oubliez pas cela. Les chefs religieux, voyez-vous, avaient une telle emprise sur lui. Et les gens disaient, eh bien, nous appartenons à ceci, nous appartenons à cela. Et ils avaient une telle emprise sur lui. Mais c'est un malheur que de ne pas vouloir être conduit par la vie éternelle. Maintenant, cette vie est présente ce soir, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est là, qui est Christ sous la forme d'un esprit. Son esprit, l'onction est ici. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Car je suis avec vous et en vous jusqu'à la consommation, jusqu'à la fin du monde. Jésus seul peut vous conduire à cette vie éternelle. Il n'y a ni église, ni dénomination, ni prédicateur, ni prêtre, rien d'autre qui puisse vous y mener. Vous devez être conduit par lui, le seul qui puisse le faire. Pouvez-vous l'imaginer? Vous conduisant hors de sa parole qui est lui-même? Et s'il est la parole, et que vous êtes une partie de lui, n'êtes-vous pas une partie de la parole? La parole sur laquelle Dieu désire déverser les eaux du salut pour l'identifier aujourd'hui, comme les apôtres l'identifièrent, comme Luther, comme Wesley, comme les gens dans leur temps l'identifièrent. Voici un autre âge, c'est la parole. La parole dit que ces choses que nous voyons maintenant ont été prédites pour cette heure. Alors, acceptez Jésus-Christ et laissez-le vous conduire à la vie éternelle. Bien que ce jeune homme ait accompli, il avait accompli toutes sortes de bonnes choses. À l'école, il avait bien travaillé, comme un bon garçon, certainement. Il avait été très bien, comme un vrai père. En écoutant son père dans les affaires, il avait été très très bien. Il avait été un bon fils, il avait bien écouté le prêtre, il avait été fidèle à son église, il avait été fidèle au commandement de Dieu. Mais il avait perdu le plus important, et le reste ne signifiait plus grand-chose pour lui. Quand il eut refusé ce guide vers la vie éternelle, Jésus-Christ. Remarquez que ce guide se présente à chacun de nous aujourd'hui, comme il s'était présenté à ce jeune homme, nous. Qu'importe combien nous sommes religieux, vous pouvez être catholique, baptiste, méthodiste, ou vous pouvez être pentecôtiste, ou tout ce que vous voulez, ce même choix se présente à vous ce soir, la vie éternelle, c'est-à-dire accepter Jésus-Christ. Cette occasion vous est donnée. Quelquefois, dans la vie, nous devons faire face à cette décision, exactement comme le fit ce jeune homme, parce que vous êtes mortel et qu'on vous donne l'occasion de choisir. Vous avez le choix. Dieu a fait en sorte que vous puissiez choisir. Il donna à Adam et Ève leur libre arbitre de façon à ce qu'ils puissent choisir. Et ils ont mal choisi. Et voyez, il ne peut rien faire de plus pour vous qu'il ne fit pour eux. Il doit vous mettre aussi devant le même choix, de façon à ce que vous puissiez accepter ou rejeter. Vous avez à choisir. Voyons quoi exactement. Vous avez à choisir, étant jeune homme, si vous allez accepter une éducation ou pas. Vous avez ce choix. Vous pouvez ne pas désirer la recevoir. Vous pouvez la refuser. Vous avez le choix de votre conduite. Je vais vous choquer un petit peu ici. Vous pouvez aller et laisser pousser vos cheveux et être un Beatle ou un de ces ignares. Ou bien, vous, femme, vous pouvez ressembler à quelqu'un de décent, ou vous pouvez être une de ces créatures étranges que nous avons par ici avec du bleu sur les yeux. Et les cheveux coupés, et toutes ces choses, elles sont complètement contre la parole de Dieu. C'est absolument contraire. Même pas offrir. Elle ne pourrait offrir une prière qui puisse être acceptée. C'est la vérité. C'est exactement cela. C'est ce que la Bible dit. Mais que vous est-il arrivé, Église? Vous avez tellement vu la télévision, tellement de choses du monde. C'est si facile pour votre vieille nature adamique de se laisser entraîner vers tout cela, d'agir comme les autres. Que je le répète encore, dans le cachet, dans l'offrande et l'expiation au jour de Moïse, quand Moïse fit sortir les enfants, il devait y avoir 7 jours pendant lesquels il n'y avait pas de levain parmi le peuple. Tout le monde sait cela. Dans Exode, pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons. Ces 7 jours représentent les 7 âges de l'Église. Pas de levain. Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Pas de credo. Pas le monde. Jésus a dit, si vous aimez le monde ou les choses qui sont du monde, l'amour de Dieu n'est point en vous. Voyez? Et nous essayons de mélanger tout cela. Vous ne pouvez pas le faire. Vous devez venir à une seule chose pour croire. Ou bien vous allez croire en Dieu, ou dans votre église, ou dans le monde. Vous ne pouvez pas tout mélanger. Et vous ne pouvez pas vous attarder à ces vieilles choses que l'autre église avant vous faisait. Vous devez accepter le message de l'heure. Il a dit, ce qui reste, ne le gardez pas jusqu'au matin, brûlez-le avec le feu, que cela soit détruit. Cela, c'est l'âge dans lequel vous vivez, le message de cet âge. Il doit sortir des Écritures et être revendiqué, prouvé par Dieu que c'est véritablement lui qui agit ainsi. Alors, ou bien vous le recevez ou le rejetez. C'est la vie éternelle, la direction du Saint-Esprit conduisant son Église. Nous pourrions nous arrêter sur ce sujet un bon moment, mais avançons, continuons à avancer. Le choix de votre conduite. Vous ne pouvez mélanger maintenant, ou vous êtes pour Dieu ou contre lui, et votre expression extérieure manifeste exactement ce qu'il y a à l'intérieur. L'ivraie, nous pensons simplement, je suis baptisé du Saint-Esprit, j'irai au ciel. Cela ne veut absolument pas dire que vous irez au ciel. Non, monsieur, vous pouvez avoir le baptême du Saint-Esprit à chaque heure de votre vie, et pourtant être perdu, aller en enfer. La Bible dit, c'est la vérité, voyez. Vous êtes en contact avec l'extérieur. Vous avez 5 sens qui permettent ce contact. Dieu vous a donné ces 5 sens, non pas pour entrer en contact avec lui, mais avec votre demeure terrestre. Voir, goûter, toucher, sentir et entendre. Puis, à l'intérieur, vous avez un esprit, et il a 5 sorties. Conscience, amour, etc. 5 issues par lesquelles vous êtes en contact avec le monde de l'esprit. Mais avec votre esprit, ce qui est physique entre en contact avec le monde physique, ce qui est spirituel entre en contact avec le monde spirituel. Mais à l'intérieur de cela, vous avez une âme. Et cette âme est ce gène qui vient de Dieu. C'est comme un bébé formé dans le sein de sa mère. Quand le bébé vient dans le sein de sa mère, le petit germe se glisse dans l'œuf. Il n'y a pas une cellule qui donne un homme, la suivante un chien, la suivante un chat et la suivante un cheval. Ce sont toutes des cellules humaines, parce que la cellule humaine est construite à partir d'une cellule humaine originelle. Et quand un homme est né de nouveau par la parole de Dieu, prédestiné à la vie éternelle, appelé, élu, ce sera la parole de Dieu, encore la parole de Dieu, et toujours la parole de Dieu. Pas un credo de dénomination et ensuite une parole, puis un credo. Ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas avoir ce levain dans la parole. Une seule vie éternelle. Jésus-Christ, la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole fut faite chair, et elle habitait parmi nous. Mes amis, vous nourrissez mes enfants. Vous m'avez envoyé dans les champs de mission, vers le monde, pour apporter le message. Je dois être sincère avec vous. Ce que je regarde, vous ne le voyez peut-être pas. C'est pourquoi je suis ici, essayant de vous l'expliquer. Ce n'est pas parce que je n'aime pas les gens, c'est parce que je les aime. C'est un amour correctif. Quand je vois, comme l'Église des vies disant, « Eh bien, nous avons fait ceci et cela », et quand j'observe ces églises et que je vois l'heure, cela ne peut pas aller. Mais regardez dans la Bible et voyez qu'il faut que ce soit comme cela au temps de la fin. Cette église de Laodicée, tiède, est mettant Jésus, la parole, à la porte. Il n'a jamais appelé, il n'appellera pas une église. Il dit, « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. » Il prend la parole et il vous l'enfonce dans la tête et il dit, « Vous n'êtes pas en accord avec elle. Voici ce qui montre que je vous aime. Si vous m'ouvrez la porte et si vous me permettez d'entrer, j'entrerai et je souperai avec vous. » Pas d'une église. Il a été mis à la porte de l'église et se dirige vers le conseil œcuménique. C'est là qu'elle va. Elle retourne droit à Rome d'où elle vient. Et c'est exactement cela. Il y a 25 ou 33 ans que j'ai écrit ça sur le papier et maintenant c'est arrivé. Pas seulement cela, mais c'est écrit dans la Bible, sur les visions. Elle est retournée. Il n'y a pas moyen de la sauver. Elle est partie. Cela sera comme cela. Dieu appelle individuellement. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un, quiconque, un individu sur 1000, même peut-être 1 sur 1 million, comme je l'ai dit il y a quelques jours, quand Israël monta pour sortir d'Égypte, ils étaient 2 millions, juste 2 millions. Seulement 1, seulement 2 personnes entrèrent, 1 pour 1 million. Saviez-vous cela? Caleb et Josué. Et quand Jésus était sur la terre, ils dirent, nos pères mangèrent la manne dans le désert, nous gardons les traditions et nous faisons ceci, nous savons où nous en sommes. Il leur dit, je sais que vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont tous éternellement séparés de Dieu, ils sont morts. Jean 5. Quand la semence vient du mâle ou de la femelle, il vient 1 million d'œufs, il vient 1 million de germes, et de tous ces petits germes de chaque espèce, si c'est du taureau ou de l'homme ou de n'importe quelle autre espèce, il y a des millions de germes, 1 million de germes se déplacent. Et cependant, il n'y a qu'un seul de ces germes destiné à la vie, car il doit rencontrer là un ovule fertile. C'est bien cela. Il ne rencontrera qu'un ovule, exactement comme ce corps qui est ici et dont le germe vient de Dieu. Voyez-vous? Et observez que ce petit germe surgit parmi tous les autres germes, se précipite, les dépasse, arrive et trouve cet ovule fertile et se faufile dedans et tous les autres meurent. Et si c'était comme cela avec l'Église aujourd'hui, 1 sur 1 million, voyez, qu'en serait-il? Resserrez la porte, étroit est le chemin, et il y en aura peu qui le trouveront, car large est le chemin qui mène à la destruction, et il y en a beaucoup qui entreront par là. Est-ce la vérité, frère Branham? Je ne sais pas, mais je cite simplement les Écritures, voyez-vous. Maintenant, vous êtes destinés à la vie, vous le voyez, voyez-vous. Si vous êtes destiné à le voir, si vous n'êtes pas destiné à le voir, vous ne le verrez pas. Ils ont des yeux et ne voient pas, ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Comme vous devez être reconnaissante, Église, comme vous devriez mettre tout en ordre à cause de ces choses, comme vous devriez être plein de feu pour Dieu, que vos yeux contemplent ce que vous voyez, que vos oreilles entendent les choses que vous voyez. Être conduit, comment se fait-il que vous soyez venu ici ce soir pour entendre un message comme celui-ci? Les églises à travers le monde me traitent de fanatique. Pourquoi êtes-vous venu? Le Saint-Esprit vous a conduit ici pour écouter, circoncire, retrancher les choses du monde, accepter la conduite de Jésus-Christ, ou vous périrez aussi sûrement que le monde. Vous pouvez choisir votre conduite. Comment vous conduisez-vous? C'est à vous de décider. Vous pouvez choisir votre femme. Vous arrivez et prenez votre femme. Vous voulez avoir une femme. Vous en voulez une qui soit votre complément pour votre, pour ce que vous désirez comme foyer futur. Pourriez-vous imaginer un homme, un chrétien, allant choisir une de ces modernes insolentes pour l'épouser? Pouvez-vous l'imaginer? À quoi pense cet homme? Quel foyer va-t-il avoir s'il choisit une stripteaseuse ou une de ces chiens de la rue ou une prostituée? Oh, dites-vous, attendez un peu. Mais comment s'habille-t-elle? Voyez, elle porte des shorts et toutes ces choses. Elle est une prostituée. Vous dites, oh, vraiment, frère Branham? Et toutes ces petites jupes si serrées, on dirait qu'on vous a moulé dedans. Fille des rues! Jésus dit, et celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Il a répondu de cela. Elle, qu'a-t-elle fait? Elle s'est affichée. Qui est coupable? Pensez-y. Vous dites, on ne fabrique pas d'autres vêtements. Il y a du tissu et des machines à coudre. Voyez, il n'y a pas d'excuse. C'est tout à fait vrai. Maintenant, je ne veux pas vous choquer. Ce n'est pas une plaisanterie. C'est ainsi dit le Seigneur, d'après les Écritures. C'est la vérité, mes amis. Je suis un vieil homme. Je n'ai plus tellement longtemps à rester ici. Mais je dois vous dire la vérité. Ne faites pas cela, sœur. Ne le faites pas, frère. Et vous, homme, qui vous cramponnez à un credo et sachant que la parole de Dieu est soutenue devant vous, le baptême du Saint-Esprit et ces réalités que nous avons aujourd'hui, et ensuite, à cause de votre credo, vous vous en détournez, comment pouvez-vous être un fils de Dieu et nier la parole de Dieu qui a été prédite pour ces derniers jours dans lesquels nous vivons? Comment pouvez-vous faire cela? Comment la Bible peut-elle appeler ceci? Comme je l'ai dit hier soir, au sujet d'un roi, une fois dans le sud, quand les hommes de couleur étaient vendus comme esclaves, eh bien, c'est à peu près comme un marché de voitures d'occasion. On vous donnait même une facture. Et j'étais bouleversé en pensant à ce que j'avais lu un jour, qu'un trafiquant était arrivé pour en acheter. Et il dit, « Eh bien maintenant, je voudrais... » Ils étaient tristes. Il fallait les fouetter pour les faire travailler, parce qu'ils étaient loin de chez eux. Ils étaient vendus comme esclaves, et ils étaient dans un pays étranger dont ils ne connaissaient rien. Ils n'avaient aucun espoir de rentrer chez eux, et ils étaient tristes. Il fallait les fouetter pour les faire travailler. Mais un trafiquant arriva sur une certaine plantation. Un jeune homme était là, la poitrine bombée, le front haut. On n'avait pas besoin de le fouetter. Il était tout à fait bien, et il soutenait le moral des autres. Le trafiquant dit, « Je vais l'acheter. » Il n'est pas à vendre. Vous n'allez pas l'acheter car il n'est pas à vendre. Il dit, « Qu'est-ce qui le rend si différent? Dirige-t-il les autres? Non. Le nourrissez-vous différemment? Non, vraiment. C'est un esclave. Il mange ici dans la même galère avec les autres. » Il dit, « Qu'est-ce qui le rend si différent? » Je me le suis demandé moi-même, jusqu'à ce que je découvre que là-bas en Afrique, d'où ils viennent, où les Boers les achetèrent, les amenèrent ici et les vendirent comme esclaves, là-bas, son père est roi de la tribu. Et bien qu'il soit étranger, loin de chez lui, il sait qu'il est le fils d'un roi. C'est pourquoi il se comporte de cette manière. Quel reproche pour les chrétiens! Nous sommes censés représenter Dieu et la vie éternelle. Il n'y a qu'une forme de vie éternelle et c'est Dieu. Lui seul a la vie éternelle. Et nous venons de lui parce que nous sommes des gènes de son esprit. Alors, nous devons nous conduire tous, hommes et femmes, comme la Bible nous l'enseigne. Pas des Jézabels de la rue, ni des insolents dans les organisations, mais des chrétiens distingués, fils et filles de Dieu, nés de l'esprit de Dieu, manifestant la lumière dans notre temps et la répandant. C'est exactement comme cela, mais comme nous nous en sommes éloignés. Pourquoi? Exactement comme ce garçon, il rejeta, refusa la vie éternelle, parce qu'elle lui aurait coûté sa place dans la société, elle lui aurait coûté son argent en abondance, elle lui aurait coûté sa bonne entente avec les membres de son église, elle lui aurait coûté beaucoup de choses. Il savait que cela allait lui coûter. Il était raisonnable et il sentait qu'il ne pouvait pas payer le prix. Pourtant, il se dit, je vais faire confiance à ma religion et continuer. Mais tout au fond de son cœur, il savait qu'il aurait trouvé auprès de Jésus-Christ autre chose qu'auprès des prêtres de ce temps. Et un message qui arrive, qui vient de Dieu, est toujours, selon les vieilles tendances, quand la guérison divine est apparue il n'y a pas longtemps, avez-vous vu comme les imitateurs ont suivi? Voyez-vous, et tous sont allés directement dans les organisations et y restent. Quelqu'un sait-il qu'il fallait qu'il y ait un message après cela? C'est que Dieu n'est pas là pour nous divertir. Il attire notre attention avec quelque chose, et quand il a attiré notre attention, alors il donne son message. Quand il est venu sur terre et qu'il a commencé son ministère, « Oh, jeune maître, nous te voulons dans notre église. Nous pouvons, viens au milieu de nous. » Le jeune prophète, « Oh, nous te voulons, viens par ici. » Puis un jour, il se leva et dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Oh, il se fait semblable à Dieu. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. C'est un vampire, nous ne voulons rien avoir à faire avec tout cela. Les apôtres sont restés là, des milliers le quittèrent. Mais ces apôtres étaient destinés à la vie. Il l'a dit, ils ne pouvaient pas l'expliquer, mais ils le crurent. Ils s'y sont tenus parce qu'il est dit, aucun homme ne peut accomplir ces choses. Même les prêtres savaient cela. Nicodème dit, nous, le Sanhédrin, nous savons qu'aucun homme ne peut faire ces choses s'il n'est de Dieu. Et Pierre, le jour de la Pentecôte, dit, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, Dieu était avec lui. Regardez dans les Écritures ce que ces Écritures disent de faire. Jésus a dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car Moïse a écrit que je viendrai sous la forme où je suis venu. Il vint comme fils de l'homme. Il vint sous trois noms comme Dieu, trois, Père, Fils et Saint-Esprit, le même Dieu, ses trois attributs. Alors, maintenant aussi, justification, sanctification, Luther, Martin et la Pentecôte, la même chose, trois attributs, trois stages, trois âges de l'Église, la même chose, dans l'eau, le sang, l'Esprit. Vous rencontrez toujours les trois éléments qui vous ramènent au corps. Ce qui vous a amené à la naissance naturelle typifie votre naissance spirituelle. Le bébé est né, la première chose est l'eau, ensuite le sang, puis la vie. C'est la façon dont vous entrez dans le royaume de Dieu, de la même façon. C'est la manière dont l'Église entre, la même manière, la même chose. Maintenant, remarquez que sur ces trois choses, Dieu a formé son, formant son corps. Maintenant, nous voyons ici que vous avez le droit de choisir. Vous choisissez la fille que vous voulez épouser, elle vous accepte, c'est très bien. Ensuite, autre chose, vous avez le droit de choisir si vous voulez vivre ou si vous ne voulez pas. Vous choisissez alors entre la vie et la mort. Vous pouvez vivre. Ce garçon avait le choix. Il réussissait tout le reste. C'était un homme religieux, mais il savait que lorsque, il dit de lui-même, j'ai observé tous ses commandements depuis ma jeunesse, mais il savait qu'il n'avait pas la vie éternelle. Et il avait le choix entre l'accepter et la refuser, et il la repoussa. C'est la faute la plus mortelle qu'il ait jamais pu faire. Ce qu'il en restait ne faisait pas le poids. Cela ne fait pas le poids, cela ne sert à rien. Si vous ne faites pas ce choix, maintenant, suivons-le après ce choix et voyons où cela l'a conduit. Maintenant, voyez ce qu'il a choisi. Voyez, il était un homme riche, un homme d'affaires, un chef, et c'était un homme religieux, tout cela. Aujourd'hui, nous dirions, eh bien, mon ami, c'est un méthodiste convaincu, ou un baptiste, ou un pentecôtiste. C'est un type bien, un garçon vraiment gentil, vraiment bien. Vous ne pourriez rien dire contre lui. Amical, gentil, sociable, et absolument rien d'immoral en lui. Il ne fumait certainement pas, ni ne buvait, ni courait les spectacles ou les bals, comme nous les appelons aujourd'hui, quelqu'un que nous considérerions comme chrétien. Mais ce n'est pourtant pas la vie éternelle. Ce n'est pas ce dont nous parlons. Il pouvait être fidèle à son église, dans laquelle il était certainement. Mais, vous voyez, à quoi cela l'a-t-il mené? Une grande popularité? Disons que s'il était prédicateur, il aurait pu être, avoir une meilleure église. Il aurait pu être un prêtre officiel ou un évêque, voyez? Cela vous conduit à la popularité et cela le conduisit aux richesses et à la renommée. Cela pourrait être la même chose aujourd'hui si vous avez un grand talent de chanteur. Je pense à ce jeune homme qui a chanté ici il y a quelque temps. Comment il donna ce talent au diable et comment il le reprend maintenant. Et quelle différence entre lui et Elvis Presley, c'est certain. Pat Boone et un groupe de ce genre, Ernie Ford, ces garçons, de grands chanteurs qui se servent de leur talent, ce talent qui est un don de Dieu. Ils s'en servent pour inspirer les œuvres du diable. C'est exactement cela. De grands chanteurs vendant leur talent donné par Dieu pour la gloire de ce monde, pour devenir quelqu'un. Comment pourriez-vous devenir davantage un quelqu'un que ce que vous pouvez être? Être quelqu'un plutôt qu'être un fils de Dieu. Qu'importe que vous possédiez toute la ville, le monde entier, si vous n'avez pas accepté d'être conduit à la vie éternelle par le Saint-Esprit, Christ, comment allez-vous? Qui êtes-vous de toute façon? Vous êtes un mortel, vous êtes mort, mort dans le péché et les transgressions. Aussi religieux, aussi fidèle à l'Église que vous voulez, prédicateur, vous voulez monter en chair, mais parce que vous avez refusé, vous mourrez. Il réussissait. C'était une grande réussite, ici dans cette vie, certainement. Nous le trouvons, nous remarquons. Ensuite, nous voyons que ce garçon a là, nous le suivons un petit moment et nous voyons qu'il réussit très bien. Et nous le suivons à travers la Bible. Et nous remarquons qu'il, nous voyons qu'il est devenu un homme riche. Il a de belles maisons. Il reçoit le juge et le maire du pays et d'autres encore. Et sur les terrasses de sa maison, il organise de grands banquets avec beaucoup de servantes, des femmes, des jeunes filles et tout ce qu'il faut autour de lui. Et il y a un mendiant étendu à sa porte appelé Lazare. Il recevait les miettes qu'on balayait. Nous connaissons l'histoire. Puis nous le voyons continuer avec succès, exactement comme le font les églises aujourd'hui. Un homme d'affaires ici m'a dit qu'ici même en Californie, l'Église devait dire à l'Union du Travail ce qu'il devait faire. Voyez, cela vient, l'Église et l'État encore. C'est juste là, vous voyez, vous êtes juste dedans et vous prenez la marque de la bête sans même le savoir. S'il vous arrive d'acheter une de nos bandes, achetez celle-ci quand je l'aurai, quand je serai chez moi. La semence du serpent. Et vous verrez où cela va, où cela finit. Je rentre chez moi maintenant pour prêcher, Dieu voulant. Il faut à peu près 4 heures. Aussi, je ne pourrais le donner à une réunion comme celle-ci. Il faut que j'aille là-bas où l'Église me supporte si longtemps avec patience. Remarquez, mais maintenant, vous pouvez écouter les bandes quelquefois chez vous. Remarquez ceci, nous avons vu qu'il réussissait très bien. Puis plus tard, nous avons vu qu'il réussissait encore mieux. Jusqu'à ce qu'il dise, j'en ai tellement. Ma foi, c'est tout à fait le type du garçon d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Mes granges sont pleines, elles débordent, et je possède tant de richesses que je peux dire, repose-toi mon âme. Mais au commencement, qu'avait-il fait? Il avait rejeté la direction de Jésus-Christ. Son Église, son intelligence, son éducation, et tout l'avait conduit au succès. Tous les Juifs l'aimaient, il leur faisait des dons, il les aidait, il avait sans doute fait ceci ou cela. Mais voyez-vous, il rejeta la direction de Jésus-Christ, la vie éternelle. Et ce, la Bible dit, il dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ensuite, nous le trouvons, c'est la place suivante, en enfer, levant les yeux et voyant ce mendiant qu'il avait jeté à la rue dans le sein d'Abraham. Quelle erreur fatale! Voilà comment les églises s'étaient bien conduites dans le chemin qu'elles suivaient, mais pourtant, elles n'avaient pas eu la vie éternelle. Ceci me rappelle un sermon que j'ai prêché ici il n'y a pas longtemps, le filtre d'un homme qui réfléchit. Vous pouvez la voir. J'allais, je marchais dans les bois, je chassais l'écureuil, c'est automne, et je regardais par terre. Et bien sûr, je ne peux pas donner le nom de la marque de cigarette, vous la connaissez. Et il y avait là un paquet de cigarettes, et je suis juste passé à côté, cherchant dans les bois, et j'avais vu ce paquet-là et je me retournais. Il était écrit, le filtre d'un homme qui réfléchit le goût d'un homme qui fume. Je repris simplement ma marche à travers bois, et le Saint-Esprit me dit, retourne et ramasse-le. Et je me suis baissé et je l'ai ramassé. Le filtre d'un homme qui réfléchit, le goût d'un homme qui fume. Je pensais, une marque américaine qui vend la mort sous un déguisement à leurs propres compatriotes. Le filtre d'un homme qui réfléchit, vous, et le goût d'un homme qui fume. J'étais à la foire internationale avec Yul Brunner et tout le monde là-bas quand il a fait tout ce test. Et comment il a pris la cigarette, l'a écrasée sur un morceau de barbe et pris, il a essuyé la nicotine, l'a mis sur le dos d'un rat, un rat blanc, et 7 jours après, il était tellement rongé par le cancer qu'il ne pouvait plus bouger. Et ils dirent, vous savez, on parle de filtre, mais c'est un attrape-nigaud, cela fait vendre plus de cigarettes. Il faut tant de nicotine pour satisfaire ce démon, c'est cela. Et quand vous prenez des cigarettes à filtre, il faut 4 cigarettes pour en remplacer une. C'est un truc pour vous vendre plus de cigarettes. Vous ne pouvez pas avoir de fumée si vous n'avez pas de goudron. Et avec le goudron, vous attrapez le cancer. Voyez-vous comment cela est? Et ces Américains aveugles qui s'attendent à ce qu'ils sortent un lapin d'un chapeau, ils tombent tous dans le piège. Vous ne pouvez pas en sortir. C'est la mort. Quelque chemin que vous preniez, c'est la mort, où que vous alliez. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Un homme qui réfléchit ne fume pas du tout. C'est comme cela, si seulement il est capable de penser. Eh bien, je pensais que ceci pouvait s'appliquer aux églises, voyez. Je pensais, Dieu a-t-il un filtre? Oui. Et toutes les églises ont un filtre, c'est bien cela. Il filtre ceux qui entrent, et il laisse aussi entrer la mort en grande partie. Comment pourriez-vous jamais faire passer une dénomination par le filtre de Dieu? Comment pouvez-vous faire? Comment pourriez-vous faire passer une femme à cheveux courts par ce filtre? Dites-le-moi, comment pourriez-vous y faire passer une femme qui porte des pantalons quand c'est une abomination pour elle de porter des vêtements d'homme? Voyez, le filtre de Dieu l'attraperait, la ferait sortir, il ne la laisserait pas entrer. Mais les églises ont leur propre filtre. Aussi je dis qu'il y a le filtre d'un homme qui réfléchit et c'est la parole de Dieu. Elle plaît au goût d'un homme saint. C'est bien cela, un homme saint, pas le goût d'un homme d'église, mais le goût d'un homme saint. Parce que c'est la parole de Dieu, pure, sainte et sans mélange. Cela, c'est le filtre d'un homme qui réfléchit. Et vous, membres d'église, je vous conseille de vous en servir. Si on y fait entrer le monde, ou même une simple parcelle de monde, c'est la mort. Un seul morceau de levain. Un seul petit bout de levain fait lever toute la pâte. Quiconque en retranche un seul mot ou y ajoute un seul mot, sa part sera retranchée du livre de vie. Au jardin d'Éden, qu'est-ce qui a causé la mort et tout ce chagrin, chaque mal de tête, chaque enfant qui meurt, chaque irritation de la gorge, chaque ambulance qui hurle, chaque hôpital, chaque cimetière, tout cela, c'était parce que Ève a douté d'un seul mot, pas de tout. Cela suffit pour tout fausser. Maintenant, Dieu dit que l'homme devait garder chaque parole de Dieu. C'est le début de la Bible. Et au milieu de la Bible, Jésus vint et il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pas seulement certaines paroles, toutes paroles. Et à la fin de la Bible, Apocalypse 22, Jésus rend témoignage lui-même. La révélation de la Bible, c'est Jésus-Christ. Et il dit, quiconque en retranchera un seul mot, ou y ajoutera un mot, sa part sera retranchée du livre de vie. Alors, vous passez à travers ce filtre d'un homme qui réfléchit, vous aurez le goût d'un homme sanctifié quand vous en sortirez. C'est cela, vous aurez un goût saint. Et vous, sœurs, qui portez ces vêtements, pensez-y. Vous allez, vous dites, je suis fidèle à mon mari, je suis fidèle à mon ami, je suis une femme vertueuse. Mais qu'en est-il de ce pécheur qui vous regarde? Quand il devra répondre d'adultère, qui donc l'a commis? Voyez, vous serez coupable. Voyez, c'est écrit dans la parole. Ainsi est-le. Oh, soyez une femme qui réfléchit. réfléchissez. Vous pouvez dire, peut-être, eh bien, si justement c'est cela qu'arrive-t-il, il l'a dit et il ne peut manquer un seul mot, voyez-vous. Un homme important m'a dit il n'y a pas longtemps, il me fit entrer dans son bureau et il dit, je vais vous imposer les mains, frère Branham, vous ruinez votre ministère à prêcher de telles choses. Je dis, si la parole de Dieu ruine un ministère, c'est que ce ministère devait être détruit. Il dit, je vais vous imposer les mains, vous avez été envoyé pour prier pour les malades. Je dis, croyez-vous ces choses, frère? Il dit, non, mais cela ne nous regarde pas. Je dis, qui cela regarde-t-il alors? Eh bien, dit-il, cela regarde le pasteur. Je dis, regardez l'assemblée, vous la voyez? Voyez-vous cela? Tous les anges en arrivent à prêcher ces choses, et je pense, sûrement, ils ont compris, mais l'année suivante, quand je reviens, c'est encore pire, voyez? Cela montre seulement que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. La direction, c'est le Saint-Esprit, mes amis. Il vous conduit et il vous guide dans toute la vérité quand lui, le Saint-Esprit, est là. Maintenant, pensez-y. Prenez le filtre d'un homme qui réfléchit. C'est la Bible. Pas votre credo, pas votre église. Vous serez perdu. Prenez le filtre d'un homme qui réfléchit. C'est là où ce jeune homme n'a pas réfléchi. Il a pris le filtre de l'église. Il est devenu populaire, un homme important, mais en enfer, il levait les yeux, étant dans la tourmente. Maintenant, vous prenez le filtre d'un homme qui réfléchit, Jésus-Christ, la parole, et vous désirez le goût d'une personne sainte, parce que cette parole satisfera ce goût. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, il satisfait ce goût. Et si le Saint-Esprit n'est pas en vous, vous dites, oh, je ne pense pas que cela ait beaucoup d'importance. Regardez donc ce que vous venez de faire, la même chose que fit Ève. Vous êtes revenu exactement au même endroit. Maintenant, nous allons un peu plus loin. Maintenant, prenons, laissons cet homme qui ne s'est pas servi du filtre d'un homme qui réfléchit. Il ne voulut pas accepter la direction de Jésus-Christ et la vie éternelle. Maintenant, prenons un autre homme d'affaires, jeune et riche, un dirigeant, avec les mêmes possibilités qu'avait ce jeune homme. Et il l'accepta. Il accepta d'être conduit par Christ. Maintenant dans la Bible, il y en a deux dont nous allons parler. Celui que nous venons de voir, qu'il a refusé, et prenons maintenant cet homme, un autre homme d'affaires, jeune et riche, un dirigeant, et il accepta d'être conduit. La Bible nous parle de cet homme. Si vous voulez le noter dans Hébreux, chapitre 11, versets 23 à 29, c'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte. Voyez qu'il accepta la vie éternelle. Moïse regarda l'opprobre de Christ comme de plus grands trésors que tous les trésors qu'avait le monde. Moïse considéra que c'était ce qu'il y avait de plus grand. Ce n'est pas ce que fit ce jeune homme riche. Et Moïse était un chef jeune et riche. Il devait devenir pharaon. Il était le fils de Pharaon et héritier du trône. Et il tourna ses regards vers l'impossible. Une bande de gens qui travaillaient dans la boue. Une bande d'esclaves. Mais par la foi, il vit la promesse de Dieu à travers la parole. Que ce peuple habiterait 400 ans dans un pays étranger, mais sortirait conduit par une main puissante. Et il considéra ceci, alléluia, comme une richesse plus grande que tous les trésors d'Égypte. Et il abandonna l'Égypte, ne sachant même pas où il allait. Il était conduit par Christ. Il renonça. Et il avait un pied sur les marges du trône. Et il aurait pu être le pharaon suivant d'Égypte. Mais il regarda l'opprobre de Christ. L'opprobre, être appelé cet excentrique, être appelé ce fanatique, prendre sa place parmi ceux qui travaillent dans la boue et parmi les fanatiques, parce qu'il avait vu que l'heure dans laquelle les Écritures devaient être accomplies était arrivée. Oh, Église, réveillez-vous, ne pouvez-vous voir la même chose ce soir? L'heure qui a été promise est sur nous. Regardez l'opprobre de Jésus-Christ. comme une richesse plus grande que les associations de toutes sortes. Que ce soit un père, une mère, une église, n'importe quoi d'autre, laissez-vous conduire par l'Esprit. Suivons ce Christ pour quelque, ce Moïse pour un petit moment. Là, j'ai fait ceci. Observons sa vie. La première chose, quand il a accepté de prendre l'opprobre de Christ et d'oublier son éducation, oublier toute sa sagesse, il avait été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et toute sa popularité, son trône, son sceptre, sa royauté, sa couronne, tout ce qu'il avait, il le rejeta. Et cet autre garçon désirait toutes ces choses et refusa Christ, tandis que celui-ci les refusa et accepta Christ. Et qu'arriva-t-il très rapidement? Il dut se mettre à part. Alléluia! Ce mot veut dire gloire à Dieu. C'est bien dommage que nous l'oublions. Il repoussa le trône et la popularité. Il aurait pu avoir des jeunes filles, des épouses par centaines, et il aurait pu avoir la domination sur l'Égypte gouvernait le monde. Le monde était là, à ses pieds, et il en était totalement héritier. Mais en lisant les Écritures, et voyant le jour dans lequel il vivait, et reconnaissant ce quelque chose en lui, cette semence prédestinée de Dieu, il se mit au travail. Il m'est bien égal que vous soyez très populaire, et tout ce que vous pouvez être. Vous pouvez être un ecclésiastique, un pasteur, ou ceci, ou cela, ou autre chose, mais si cette parole de vie éternelle, par la parole de Dieu, a été préordonnée en vous, et si vous voyez les choses qui arrivent, elle agit, elle travaille en vous, elle commence à sortir, vous commencez à comprendre. Et il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, car il estima l'opprobre de Christ comme un trésor plus grand que toutes les richesses de l'Égypte et du monde. C'est ce qu'il estima. Observez ce qu'il fit. Il suivit la parole. Il fut très vite repoussé par son peuple, ce peuple qu'il avait aimé autrefois. Cela peut vous coûter tout ce que vous avez. Cela peut vous coûter votre foyer, vos amitiés, vos réunions de dames. Cela peut vous coûter votre place dans la chorale. Cela peut, je ne sais pas ce que cela vous coûtera, mais cela vous coûtera tout ce qui est du monde ou appartient au monde. Vous devrez vous séparer de tout ce qui est du monde. Il faudra que vous le fassiez. Moïse laissa tout de côté et partit au désert avec un bâton à la main. Amen. Des jours et des jours passèrent. Et nous pouvons nous demander s'il pensa s'être trompé. Non. Très souvent, les gens se mettent en route et disent, « Oh, je vais le faire, gloire à Dieu, je le vois !» Et si quelqu'un rit de vous et se moque, alors vous pensez, « Certainement, je me suis trompé. » Il dit, « Ceux qui ne peuvent supporter le châtiment sont des bâtards et ne sont pas des enfants de Dieu. » Voyez, ils sont soumis à leurs émotions. Voyez la semence dont j'ai parlé il y a un moment. L'âme n'y était pas pour commencer. Il était loin de l'esprit, elle a fait toutes sortes de choses. « Oh, vous, et il !» Et quand notre esprit est loin, vous pouvez, c'est le vrai, l'authentique Saint-Esprit, et vous pouvez pourtant être un démon. Oh, dites-vous, frère Branham, de faux prophètes. La Bible dit, dans les derniers jours, il y aura de faux prophètes. Jésus a dit, de faux prophètes s'élèveront. Pas de faux Jésus maintenant. Personne ne soutient cela. Mais de faux Christ. Et Christ veut dire ceux qui sont loin, faussement loin. Ils sont loin, mais ils sont faux au fond. Et ils montrent des signes et des miracles, parlent en langue, dansent dans l'esprit, prêchent l'évangile. Judas l'Iscariote le fit aussi. Siméon, ou non, je m'excuse, Caïphe prophétisa. Balaam l'hypocrite. Sûrement, il avait tous les signes, absolument tout, tous les caractères de la religion. Mais vous voyez, mettez un grain d'ivraie et un grain de blé dans la même terre et arrosez-les. Oignez-les, ils se réjouiront tous les deux, ils pousseront tous les deux grâce à la même eau. Le soleil brille sur les justes et sur les injustes, et la pluie tombe sur les justes et les injustes. Mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Comment ne pouvez-vous pas vous aligner sur la parole? Amen. Voyez-vous ce que je veux dire? L'eau tombe sur les justes et les injustes. Les oints. Jésus dit, en ce jour, ils viendront à moi disant, « Seigneur, n'ai-je pas chassé les démons? N'ai-je pas prophétisé? n'ai-je pas fait de grandes choses en ton nom? Il dira, vous ouvriers d'iniquité, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Allez dans l'enfer éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Voyez-vous, quelle parole! C'était une contrefaçon. Adorer en vain, combattre en vain. Pourquoi faites-vous cela? Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela. Mais ce petit garçon n'avait jamais vu un miroir. Vous regardez-vous dans le miroir? Je vous le demande au nom de Christ. Vous regardez-vous dans le miroir de Dieu? Un frère parle dans une autre langue, un autre frère en donne l'interprétation, note de l'éditeur. Amen. Je voudrais demander une chose. Combien ici sont pentecôtistes? Levez la main, sont pentecôtistes. Presque tout le monde. Mais maintenant, combien ici se reconnaissent comme chrétiens? Levez votre main, où que vous soyez. Reconnaissez-vous comme chrétiens? Savez-vous que la Bible parle de cela, que cela arriverait? Cela arriva dans l'Ancien Testament, quand ils se demandaient ce qu'ils devaient faire, comment ils pouvaient échapper aux ennemis qui les assiégeaient. L'Esprit tomba sur un homme, et il prophétisait, et leur disait où ils devaient rencontrer l'ennemi, et comment faire pour avoir le dessus sur eux. C'était l'Ancien Testament, le même que le Nouveau. Maintenant, on pourrait dire, cet homme, oh, ce n'était pas cela. Oui, mais si c'était cela, vous dites, oh, mais j'ai déjà entendu cela avant. Oui, mais si c'était vraiment cela, vous voyez, alors cela prouve simplement qu'ici, il y en a beaucoup qui ont besoin d'avoir le cœur changé, si c'est le Saint-Esprit qui parle. Il y a des choses qui doivent être faites, oui, mais maintenant cela dépend de vous. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, c'est maintenant juste qu'il vous appelle. À toi, agneau de Dieu, j'ôterai ce cœur endurci et le remplacerai par un cœur de chair qui se rendra à moi. Viens, tel que je suis, tu veux me recevoir. Tu veux, voulez-vous choisir ce soir? Vous pouvez faire le choix que vous voulez. Efface, il se peut que vous ayez entendu cela déjà, mais aujourd'hui, c'est peut-être la dernière fois que vous l'entendez. Parce que je crois en ta promesse. Oh, ces appels à l'autel autrefois, ils sont démodés aujourd'hui, mais Dieu continue à se manifester en eux. Ne le sentez-vous pas se manifester à vous, Église? Je viens. Le frère Branham commence à fredonner tel que je suis, note de l'éditeur. Oh, réfléchissez. Aujourd'hui, les cœurs s'endurcissent. Ils sont pleins du monde. Indifférent, membre d'église, tiède, comme le jeune homme, riche patron, et ne sachant pas que le glorieux Saint-Esprit est là, frappant à la porte de cet âge de la Odyssée, celui qui entend ma voix, la parole, ouvrira son cœur. Je viendrai en lui et je souperai avec lui. Et l'Esprit, parlant à travers de ce frère il y a quelques minutes, a dit, je t'enlèverai ce cœur de pierre et te donnerai un cœur de chair, tendre envers Dieu. Regardez ce que c'est devenu maintenant, simplement une émotion intellectuelle, voyez, mais pas un cœur tendre, plein d'amour et de douceur pour Christ. Frère Branham commence à redonner le cœur, note de l'éditeur. Ne voulez-vous pas un cœur comme cela? Comment pourrez-vous vous présenter devant Christ avec une conception intellectuelle de lui? Vous devez accepter la vie éternelle. Verset. La réparation fut faite par le sang. Et ta voix qui m'appelle, qu'a-t-il fait? Il a répandu son sang et maintenant il vous prie. Viens. À toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Que chaque chrétien lève simplement la main, doucement, maintenant, et prie. Ô Dieu, s'il te plaît, Seigneur, saisis ce jour où nous vivons. Ô, c'est si dur, Père. Satan a tellement agi auprès des gens, les cœurs se sont endurcis, ton esprit parle directement, ta parole est là, prouvée, mais l'expérience démodée de la nouvelle naissance, ils sont. C'est devenu une conception dénominationnelle et intellectuelle, beaucoup de musique, de cris, de transport, mais réellement, ce cœur de chair, cet esprit, cette vie éternelle, elle est certainement devenue étrangère à l'Église. Seigneur, Mon cœur est brisé, et moi, un pécheur sauvé par ta grâce. Cela me fait tellement souffrir, Père, de voir l'Église pour laquelle tu es mort, que tu essayes de racheter. Je pense à la vision que tu m'as donnée au sujet de cette Église, des États-Unis et des autres pays. Quel horrible spectacle, striptease et rock'n'roll. Mais quelque part, j'en vis arriver une autre, bénie. Je te prie, Père, que si quelqu'un ici ce soir, de ceux qui sont prédestinés à la vie, voulait l'accepter, que ce soit l'heure pour le faire. Accorde-le, Seigneur, brise ce cœur de pierre maintenant, ce vieux cœur selon le monde, et s'ils veulent la paix, s'ils veulent quelque chose qui les satisfasse, quelque chose qui leur donne une assurance, qu'ils acceptent la direction de Christ ce soir pour les conduire à une paix qui surpasse toute compréhension, une joie ineffable et pleine de gloire, et même quelque chose que la mort elle-même ne peut pas endommager. Accorde-le, Père. Maintenant, avec vos mains levées, je me demande si combien dans cette salle dirait seulement « Je vais me lever ». Maintenant, peu importe qui est assis près de vous, c'est Dieu qui vous parle. Si vous voulez réellement être un vrai chrétien, tout ce qui est moins que cela est une interprétation. Oh, j'aimerais encore mieux sortir et aller dans le monde. Je crois que vous aussi aimeriez mieux, mais maintenant examinez-vous à la lumière de la parole, à l'aide du message. Examinez ce que doit être un vrai chrétien. Rudement, rien de ce christianisme moderne qui est doux, souple, à moitié mort, pourri, nourri de nourriture hybride. Voyez, ce n'est pas le vrai christianisme, vivant n'importe comment et appartenant à une église. Ne voulez-vous pas cette douce communion avec Christ, le Saint-Esprit que vous êtes, avec un cœur conforme à la parole? Allez directement à Christ. Si vous voulez cela et désirez que Dieu vous voie debout, ce soir, debout dans ce groupe de personnes, si vous voulez seulement le faire, vous dites, est-ce que ça voudra dire quelque chose, Abraham? Oh oui, c'est certain. Si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous devant mon Père et les saints anges. Mais celui qui me confessera et me reconnaîtra sur cette terre, je le confesserai devant mon Père. Maintenant, qu'importe qui vous êtes, femme, homme, jeune fille, qui que vous soyez, chrétien ou non chrétien, ministre, diacre, si vous croyez seulement de tout votre cœur, juste un moment, et ce soir faire en sorte que Dieu sache que vous êtes sincère. Maintenant, voyez, je suis pentecôtiste, dites-vous, je suis ceci, ou quoi que vous soyez, je prétends danser dans l'esprit. Mais frère Branham, je pensais que du moment qu'on avait cela, on l'avait. Non, vous ne l'avez pas. Si vous croyez que je suis le prophète de Dieu, vous écoutez mes paroles. Voyez, c'est une séduction dans ces jours. La Bible ne dit-elle pas que ce serait si près que cela séduirait même les élus si c'était possible? Les élus jusqu'au fond de l'âme. Mais si vous dansez dans l'esprit, êtes encore avec les choses du monde, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous parlez en langue, Paul dit, je pourrais parler les langues des hommes et des anges et pourtant ne pas être sauvé. Les deux sortes, voyez, je peux avoir toutes les émotions, je peux avoir la foi, je peux prêcher l'évangile, je peux donner tous mes biens pour nourrir les pauvres, je peux porter la parole dans les champs de mission à travers le monde, et pourtant je ne suis rien, voyez-vous, c'est l'intérieur de l'intérieur, frère. Votre esprit s'en va quand vous mourrez, il prend son envol, mais votre âme vit. Maintenant, regardez-vous, êtes-vous vraiment un authentique chrétien selon la Bible? Plein de l'amour de Dieu? Rappelez-vous que la Bible dit, dans les derniers jours, quand ce temps arrivera, il dit, un ange, avec un sceau, traversa les églises et les villes, et c'est là seulement ceux qui gémissaient, soupiraient à cause des abominations qui avaient lieu dans la ville. N'est-ce pas cela, Ézéchiel? Nous savons que c'est la vérité. L'ange qui s'élève s'avança et mit un sceau sur leur tête, leur front. Laissez là ceux qui soupirent et gémissent. Ensuite viennent les anges destructeurs des quatre coins de la terre, et ça vient très vite, nous le voyons venir, des guerres arrivent qui vont détruire la terre entière. Il n'y avait rien qui ne puisse toucher, si ce n'est ceux qui avaient le signe. Maintenant choisissez. Votre cœur est-il si lourd à cause des pécheurs et des choses que l'Église et les gens font, jusqu'à pouvoir soupirer et pleurer jour et nuit à ce sujet? Sinon, je me pose des questions. Ce sont les Écritures. Voulez-vous simplement vous lever et dire, « Cher Seigneur, je ne me tiens pas debout parce que Frère Branham l'a demandé, mais j'ai entendu sa parole le dire, et je vais le faire. Pour toi, Seigneur, je suis debout. J'ai un vide dans le cœur. Veux-tu le remplir ici ce soir, là où je me tiens? Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. J'ai besoin de toi. Je désire que tu aies pitié de moi. Dieu vous bénisse. Je désire être cette sorte de chrétien qui... Maintenant, souvenez-vous que la personne qui est debout à côté de vous est exactement comme vous. Je désire que vous étendiez la main vers eux, que vous leur preniez la main et que vous disiez, « Mon frère, ma sœur, priez pour moi maintenant. Je désire que vous priez pour moi. Dites-le simplement avec une sincérité toute chrétienne. Priez pour moi. Je veux être droit devant Dieu. Vous priez pour moi. Je vais prier pour que Dieu vous donne l'occasion. Je sais que nous ne pouvons pas rester beaucoup plus longtemps, vous le voyez. Nous sommes à la fin des temps. Tous ceux qui croient cela disent Amen. L'assemblée dit Amen, nom de l'éditeur. Nous sommes, il ne reste plus rien, tout est parti. Les églises se dirigent vers le conseil œcuménique. Le monde, regardez, savez-vous ce que le Seigneur a dit au sujet de Los Angeles et tous ces endroits? Elle a disparu. Vous rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a 2 ans à peu près, comment ce tremblement de terre arriverait au Canada, là-haut en Alaska? Je vous ai dit également que Hollywood et Los Angeles s'enfonçaient dans l'océan. Californie, tu es perdu. Pas seulement la Californie, mais toi, monde, tu es condamné. Église, à moins que tu ne te mettes en règle avec Dieu, tu es condamné. Ainsi dit le Saint-Esprit. M'avez-vous jamais entendu me servir de ce nom, à moins que ça n'arrive? Je vous le demande. Il y a 20 ans que vous me connaissez, mais vous ai-je jamais annoncé quelque chose dans le nom du Seigneur qui ne soit pas arrivé? Si tout ce que je vous ai dit qui arriverait est arrivé, dites Amen. L'assemblée dit Amen, note de l'éditeur. Voyez-vous, maintenant je vous dis que c'est l'heure. Vous feriez mieux de vous mettre tous en règle. Maintenant, prions chacun les uns pour les autres. Cher Seigneur, alors que nous nous tenons ici ce soir, un peuple mourant, nos visages tournés vers la terre, la poussière, tu nous as donné ce sermon incisif, Seigneur. Nous voyons l'exemple de 2 hommes. L'un d'eux étant un homme religieux, alla à l'église, mais rejeta la conduite vers la vie éternelle. Et l'autre rejeta la renommée du monde et se tourna vers la vie éternelle. Et nous voyons leur condition à tous deux ce soir, selon la Bible. L'homme riche est dans les tourments et Moïse est dans la gloire. Père, nous désirons être comme Moïse. Nous désirons être conduits par ton Fils très saint, Jésus-Christ, à la vie éternelle. Accorde-le à nos cœurs ce soir, Seigneur. Déchire notre vieux cœur de pierre. Mets en nous le nouveau cœur, le cœur de chair, le cœur auquel tu puisses parler et que tu puisses modeler. Et nous ne serons plus dédaigneux ou indifférents. Que le Saint-Esprit ne nous laisse jamais, Seigneur. Qu'il vienne et soit le maître de ce peuple. Parle-leur. Détruis leurs désirs endurcis et remplace-les par le désir de Dieu. Sauve chacun de nous, Père. Fais-nous partager ton amour. Conduis-nous à l'endroit, Seigneur, où nous nous écarterons de tout, tout ce qu'il y a d'émotif, pour atteindre ce qu'il y a de vrai et de solide. Ce que nous ressentons dans nos cœurs, la profondeur de l'esprit, la richesse de Dieu, le royaume de l'Esprit dans nos cœurs. Accorde-le, ô grand directeur, glorieux Saint-Esprit, avant de prendre ton envol vers les cieux avec ton Église. Ô Dieu, que je sois enlevé, Seigneur, ne me laisse pas ici, Jésus, que je parte avec toi, Père. Je ne veux pas rester sur cette terre pour voir ces tribulations qui approchent. Je ne veux pas rester ici dans cette folie. Je ne veux pas être là quand il y aura des choses affreuses, des gens perdant l'esprit. Nous voyons des hommes qui voudraient agir comme des bêtes et ressembler à des bêtes, et des femmes voulant ressembler à des animaux avec leur peinture sur le visage. Sachant que ces choses ont été prédites, que cette chose arrivera, ils seront tellement fous jusqu'à ce que s'élèvent des sauterelles avec des cheveux comme ceux des femmes pour tourmenter les femmes, avec des dents comme celles des lions, et toutes les choses que tu as dites. La faculté de réflexion des gens aura complètement disparu. Nous voyons que cela commence maintenant, Seigneur. Aide-nous, ramène-nous à l'esprit sans défaut de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, grand guide vers la vie éternelle, nous acceptons ta promesse ce soir, Père. J'intercède pour ces gens, j'intercède pour chacun d'eux au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je prie que Christ, le Fils de Dieu, vienne dans le cœur de chacun. Seigneur, nous modèle et fasse de nous de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Accorde-le, Seigneur Dieu. Nous t'aimons et nous désirons que nos penchants, qu'un changement intervienne en nous pour que nous puissions être tes enfants. Sentir ton esprit travailler dans nos cœurs, Seigneur, nous rendant plus réceptifs et nous faisant réaliser dans quel monde égaré nous vivons. Accorde-le, mon Dieu, quand nous voyons des jeunes femmes tellement prises au piège de Satan, des jeunes hommes à l'esprit perverti, des enfants, des drogués, des fumeurs, des buveurs, toute cette immoralité, l'Éden de Satan. Mon Dieu, il t'a fallu 6000 ans d'après la Bible pour construire un paradis terrestre. Et tu y as mis ton fils et sa femme, son épouse, pour y régner. Et Satan vint et le pervertit. Il a eu 6000 ans et il a construit son propre Éden intellectuel au travers de la science, de l'instruction et de la soi-disant intelligence. Et il en fit un. Oh mon Dieu, ramène-nous au paradis terrestre, Seigneur, où il n'y a ni mort ni chagrin. Accorde-le, Seigneur. Nous sommes là, attendant humblement que le second Adam vienne chercher son épouse. Fais que nous soyons une partie de lui, Père. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Aimez-vous Dieu? Pouvez-vous ressentir? Pouvez-vous réaliser ce que j'essaye de vous expliquer? Si vous pouvez comprendre ceci, levez seulement la main. Dites, je comprends ce que vous essayez d'expliquer. Pouvez-vous voir la folie de cet âge? Regardez, c'est fini. Il n'y a même plus rien de raisonnable chez les gens. C'est fini. Où est notre, même les dirigeants? Regardez notre président. S'ils veulent le communisme, qu'il l'est. Tout ce que les gens demandent, donnez-leur. Mais où sont donc nos leaders, comme Patrick Henry ou George Washington? Où sont nos dirigeants qui se portent garant d'un principe? Nous n'en avons plus. Où sont nos églises, nos prêtres? Ils accepteront les gens simplement parce qu'ils sont pour la prohibition, ou bien parce qu'ils viennent, font partie de l'église et font ceci, ou éprouvent une certaine sensation ou quelque chose. Où sont ces hommes de Dieu, ces prophètes qui s'élevaient et osaient défier toutes les choses du monde? Où sont ces hommes intègres? Où sont-ils? Ils sont si mous et acceptent des conceptions intellectuelles et toutes sortes de choses, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus rien. Oh Dieu, aie pitié de nous. Ces spectacles affreux qui apparaissent sur la terre. Vous pouvez voir comment les gens y vont directement. C'est une folie. Mais quand ces choses frapperont, l'Église sera partie. Mon Dieu, que nous soyons partis aussi. C'est ma prière au grand être surnaturel qui est dans cette salle ce soir, le Christ si grand qui a toujours la vie éternelle. Je te prie, Jésus-Christ, alors que je suis ici, les yeux ouverts, regardant cette église que tu as rachetée par ton sang, mon Dieu, que pas un de nous ne soit perdu. Nous voulons être en règle avec toi. Aussi lave-nous, Seigneur, de toutes nos iniquités. Efface nos péchés et toutes choses. Nous avons vu que tu guéris nos malades, même que tu ressuscites nos morts. Ils reviennent à la vie par la prière. Et nous avons vu toutes ces choses arriver, Père. Maintenant, ramène-nous à la vie spirituellement. Amène-nous à réaliser la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Accorde-nous ceci, Seigneur. Je remets tout entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que nous soyons réunis, jusqu'à ce que nous soyons réunis aux pieds de Jésus. jusqu'à ce que nous soyons réunis. Regardez-le, qu'il nous rende doux. Nous soyons réunis, que le Seigneur soit avec vous. Levez les mains maintenant, jusqu'à ce que nous soyons réunis.